Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Actes au chapitre 13. Les versets 6 à 13 ce matin, et comme vous le comprendrez, notre temps dans la prédication va être plus bref ce matin, ça va être plus court. Actes 13. On va aller ensemble dans un court mot de prière. Bien, Père éternel, merci. Merci Seigneur pour ce voyage missionnaire que Julie a pu faire là-bas. Merci pour tout ce que tu lui as montré, Seigneur. Tout ce qu'elle a vu avec ses yeux, avec son cœur, ces gens fascinants qu'elle a rencontrés, généreux, ces gens qui trouvent plus de bonheur en toi que dans les biens matériels de toute évidence, Seigneur. Merci, Père, pour toutes ces opportunités que tu as données à elle, à Serge, à toute l'équipe de pouvoir parler de toi, Seigneur Jésus, et aller à ces rencontres-là pour pouvoir être justement un reflet de ta personne et apporter le message de l'Évangile. Seigneur, je te prie de susciter dans notre cœur un cœur missionnaire pour l'Église, Seigneur entier. Un cœur missionnaire pour ici, pour autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Et que de tels projets puissent se multiplier, Seigneur. Et que nos cœurs brûlent, Seigneur, pour se donner, pour être généreux, aller vers les gens comme ça et leur partager l'Évangile. Puisses-tu bénir, Seigneur, la suite des choses que tu veux faire avec ce projet, avec Serge Lemay, toute l'équipe, avec Julie. Dirige, Seigneur, pour la suite, si tu veux faire un voyage missionnaire avec des plus jeunes qui partiraient, conduis pour toutes ces choses, Seigneur. Père, je te prie de parler à nos cœurs par ta parole ce matin, dans ce court passage où nous voyons l'Évangile venir être confronté à de la magie, à de l'ésotérisme, Seigneur. Je te prie de faire resplendir la beauté et la force de l'Évangile, comme une foi à part, Seigneur, comme une lumière qui vient libérer, qui vient éclairer. Et Père, si au milieu de nous ce matin, quelques personnes te cherchent comme ce proconsul romain cherchait, Seigneur, viens et donne-leur de te rencontrer, Seigneur Jésus, et de te connaître. Sois avec moi, sois avec ma bouche, avec mon cœur. Que tout ce que je communique, Seigneur, vienne de ton esprit, vienne de toi. Sois conforme à ta révélation, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bien, comme vous l'aurez remarqué, pendant quelques semaines, on est beaucoup sur la mission et c'était volontaire. Ça va bien avec le livre des Actes, évidemment, puisque le livre des Actes, c'est la mission. C'est la propagation de l'Évangile, c'est l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aussi, volontairement, on voulait se concentrer pendant ces semaines-là sur la mission en relation avec cette offrande de l'action de grâce. Et ce matin, dans le passage qu'on va voir, très brièvement, dans ce passage, on va voir l'Évangile venir rencontrer la magie, l'ésotérisme. Et je trouvais ça intéressant. J'étudiais le passage cette semaine, puis je lis la presse régulièrement et quelques-uns d'entre vous auront probablement remarqué qu'il y a une série actuellement dans la presse sur les gourous. Certains d'entre vous avaient peut-être lu les articles sur les gourous, toutes sortes de pratiques occultes, ésotériques, avec beaucoup de charlatans au milieu de tout ça. Peut-être des gens qui y croient vraiment, mais d'autres personnes aussi qui sont là pour faire de l'argent sur le dos de personnes crédules. Et comment même ces pratiques-là peuvent s'immiscer des fois dans nos écoles, dans les hôpitaux, et des fois être endossées même par des autorités publiques. Et je lisais là-dessus sur ces pratiques qui sont souvent, comme je le dis, ésotériques, obscures, tout ça. Et moi, j'étais dans ce passage où on voit Luc, l'auteur du livre des Actes, qui nous présente cette rencontre, cette opposition qui va se produire entre l'Évangile et la magie, ces pratiques ésotériques-là. C'est un des éléments qu'on voit, c'est une des oppositions qu'on retrouve dans le livre des Actes à plusieurs reprises. Et tout ça me faisait réfléchir sur cette idée que souvent les gens qui sont peu informés sur l'Évangile placent, le réflexe peut être là de placer tout ce qui est foi dans le même bateau, vous voyez. Mais l'Évangile de tout temps, s'est opposé à ces pratiques occultes-là, mystérieuses, je dirais obscurantistes, qui donnent l'opportunité à des individus propriétaires, dépositaires d'un savoir secret et mystérieux, de pouvoir manipuler des gens. L'Évangile s'est toujours opposé à ça à travers les anges. Et je trouve que c'est un beau passage pour aller clarifier justement ce que l'Évangile fait lorsqu'il vient rencontrer la magie, lorsqu'il vient rencontrer ces pratiques ésotériques auxquelles autrement notre société pourrait l'associer. Alors, je vous lis le passage rapidement, les versets 6 à 13 dans le livre des Actes au chapitre 13. Actes 13, versets 6 à 13. Paul et Barnabas sont envoyés sur le champ missionnaire. Première escale, l'île de Chypre. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, ce qui est assez ironique, ce qui veut dire fils de salut, Bar-Jésus, d'accord, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, toujours ce Bar-Jésus, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine ou de l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Voici comment je résumerais le message essentiel que je voudrais qu'on retienne du passage. L'Évangile de Jésus-Christ est une sagesse et une puissance de Dieu pour éclairer tous ceux qui cherchent Dieu et confondre tout ce qui s'oppose à Dieu. Je répète ça, l'Évangile de Jésus-Christ est une sagesse et une puissance de Dieu pour éclairer tous ceux qui cherchent Dieu et confondre tout ce qui s'oppose à Dieu. Et voici comment je le résumerais en trois points. L'Évangile, premièrement, pour en finir avec les charlatans. Deuxièmement, l'Évangile, une sagesse divine pleine de bon sens. Un peu ironique comme phrase, si c'est divin, n'est-ce pas? Troisièmement, l'Évangile, folie pour les uns, sagesse pour les autres, faiblesse pour les uns, puissance pour les autres. Luc veut nous démontrer, je crois, que l'Évangile n'a rien à voir avec l'ésotérisme, avec la magie, avec toutes ces pratiques-là. L'Évangile n'est pas à associer avec ça. Maintenant, on vit une époque où le rationalisme semble, prétend vouloir expliquer toutes choses. C'est une vision très matérialiste de l'homme et tout s'explique à partir de la matière et ce qu'on peut déduire de la matière. Ma conviction à moi, c'est que même dans cette approche-là, il y a beaucoup de foi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer simplement avec la science et simplement avec une approche matérialiste de l'univers ou une approche matérialiste de l'homme. Maintenant, notre époque a tendance à croire, a tendance à dire que le rationalisme peut expliquer toute chose. Et dans cette perspective-là, il est tentant de classer, de mettre dans le même bateau tout ce qui relève de la foi, explicitement. D'accord? J'ai laissé entendre que selon moi, ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu essaient quand même d'expliquer avec un système de foi toutes sortes de mystères. Vous savez, c'est peut-être pas tout le monde qui me suit là-dedans, mais je pense qu'il y a une bonne part de foi dans cette approche-là aussi. Maintenant, si on se dit non, ça c'est pas de la foi, ça c'est juste la science, il est tentant de placer tout ce qui relève de la foi, tout ce qui reconnaît être du domaine de la foi dans le même bateau. Et donc, de placer quelques systèmes de croyances qui existent dans un même bateau, ce sont pour les gens crédules, les gens qui croient facilement dans n'importe quoi, dans des fables, dans des choses qui ne se tiennent pas. Or, Luc cherche à démontrer que l'Évangile s'oppose à tout ce qui est ésotérisme, magie, révélation, comme je disais tout à l'heure, obscurantiste. Et ça se reproduit, ces chocs-là se reproduisent à quelques reprises à travers le livre des Actes. Repensez à Simon le magicien que Pierre a repris sévèrement. Dans la vision de Luc, le christianisme, la foi chrétienne, n'a absolument rien à voir et rien en commun avec la magie, avec des pratiques occultes, avec de l'ésotérisme. Au contraire, il est en opposition à ces choses-là. L'Évangile n'est pas un outil de manipulation. Dans le passage qu'on a ici, on rencontre un personnage. Le judaïsme fascinait déjà à l'époque, d'accord? Le judaïsme fascinait simplement par sa vision de Dieu, qui est une vision monothéiste, qui tranchait avec beaucoup de ce qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc, il y a des gens qui sympathisaient. Maintenant, de tout temps et déjà à l'époque, on retrouvait chez certains juifs des pratiques qui pouvaient ressembler, pas tout le monde qui connaît ça, mais la cabale juive, des pratiques de magie juive, des pratiques ésotériques qui tiraient certaines notions du judaïsme et de l'Ancien Testament, mais qui allaient beaucoup plus loin aussi. Et donc, on trouvait déjà cela à l'époque. Et donc, on a ce personnage-là qui apparaît ici, qui est présenté comme un magicien, un faux prophète juif qui s'appelle Fils de Salut et qui était conseiller auprès du proconsul Sergius Paulus, l'homme en plus haute autorité sur ce département, sur cette île, d'accord? Sergius Paulus avait cet homme-là qui était pour lui un conseiller. Et comme tout magicien, ses connaissances, ses soi-disant connaissances qu'il avait reçues par des pratiques obscures quelconques, le plaçait dans une position d'influence, voire de manipulation. L'Évangile n'a rien à voir avec cela. Cette semaine, lorsque je lisais la série d'articles sur les gourous, ce qu'on retrouve dans ces approches-là, c'est toujours des individus qui sont dépositaires d'un savoir, d'une connaissance obscure, secrète. Et comme eux seuls possèdent ces connaissances-là, bien, vous êtes placés dans une position de dépendance envers eux où vous devez aller vers eux pour qu'ils puissent apporter ce que ce mystère, ce secret-là, cette révélation qu'eux seuls ont reçue peut apporter dans votre vie pour vous délivrer, pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous aider à vous épanouir. C'est toujours la même dynamique. Certains d'entre eux font des pratiques vraiment occultes et cherchent à entrer véritablement en contact avec des esprits. La Bible nous dit que certains d'entre eux entrent en contact avec des démons. J'ai aucune difficulté personnellement à croire ça. Mais il y a toujours la même dynamique de cette connaissance secrète, dépositaire d'une révélation spécifique, secrète, qui vous place dans une position de dépendance envers eux. Parce qu'eux autres ont cela et que votre bonheur se trouve là-dedans, ils viennent et ils ont autorité sur votre vie. Ça les place dans une position d'ascendance sur vous et ça devient un outil de manipulation par lequel ils vont chercher à avoir le contrôle sur votre vie, évidemment, ultimement, contrôle sur votre porte-monnaie. Élimas était un de ces hommes-là, qui est dans une position d'influence et de manipulation de par ses connaissances. Et donc, il est conseiller auprès du proconsul. Vous savez le personnage qui me revenait à l'esprit? Les fans de Tolkien. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Gamelin. Gamelin, qui est ce conseiller obscur auprès du roi Théoden et qui peut le manipuler. Qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière vient, lorsque la vérité est apportée et qu'il pressent qu'il pourrait perdre ce pouvoir-là de manipulation, d'influence? Il devient malin, hein? C'est exactement ce qui se passe ici avec Élimas. Tout son pouvoir, toute son autorité repose sur le fait qu'il est dépositaire de savoirs obscurs et secrets. Et lui seul peut vous donner cette précieuse révélation qui va pouvoir vous libérer. L'Évangile n'a rien à voir avec cela. L'Évangile est tout le contraire de cela. Et si à travers l'histoire de l'Église, nous avons vu des hommes, nous avons vu des églises se servir de l'Évangile, se servir du christianisme, de la foi chrétienne pour replacer les hommes dans une position de dépendance semblable où vous devez aller rencontrer un prêtre seul et lui seul a cet accès auprès de Dieu qui fait que si vous allez vous confier à lui, vous allez pouvoir être libéré éventuellement et lui peut vous dire ce que Dieu désirait que vous fassiez pour pouvoir être libéré. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile, ça. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. L'Évangile est une foi intelligente qui est donnée gratuitement. L'Évangile se trouve dans un livre, dans la Bible. Et la première chose qu'on doit faire et qu'on cherche à faire, si vraiment on veut apporter l'Évangile à quelqu'un, c'est lui présenter ce livre-là et dire, regarde, je peux t'en donner un, tu peux aller en acheter un dans une librairie, tu peux commencer à lire. Et je ne cherche pas à installer cette relation de dépendance où je vais pouvoir profiter de cela. Voyez-vous, Julie est allée au Togo. On allait dire comme Tintin au Congo, mais je ne le dirai pas. Julie est allée au Togo, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée donner l'Évangile. C'est quoi le retour? C'est quoi le pouvoir? Non, si on comprend bien, ils aimeraient même ça qu'on retourne. Au contraire. L'Évangile se trouve dans un livre. Et ce qu'un chrétien fait, c'est qu'il ouvre ce livre et puis il l'offre. Puis il dit, regarde, lis les pages, découvre-le. Bien sûr, il y a cette idée qu'il y a une révélation, c'est une révélation de Dieu. Mais cette révélation s'offre gratuitement, librement, s'adresse à l'intelligence de la personne. Et d'aucune manière, l'Évangile ne doit servir à ce que je puisse avoir un ascendant sur toi. Malheureusement, si vous suivez les mouvements évangéliques dans certains pays, certainement ici aussi, certaines églises, des fois même à Montréal, certains hommes, au nom de l'Évangile, vont installer ce genre de rapport-là, d'abus. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux prophètes, ce sont des gens qui se servent de l'Évangile pour faire un gain personnel. Simon le magicien s'est dit, « Hey! » Donnez-moi un coup de baguette magique ici, là, puis je vais pouvoir moi aussi le faire. Puis, ouf, ça va être payant cette affaire-là. Alors voyez-vous, ça existe encore. Mais ce n'est pas ça l'Évangile, ce n'est pas ça le christianisme. L'Évangile s'offre librement, gratuitement, ne vise pas à me donner un ascendant sur les gens autour de moi. Ça vise à libérer les gens afin qu'ils soient eux-mêmes connaissants de l'Évangile et qu'ils puissent l'apporter librement à d'autres personnes. Ainsi, si vous n'êtes pas familier avec une église évangélique, puis vous venez ici, puis vous me voyez dimanche après dimanche en train de prêcher en avant, il n'y a personne ici, j'ose l'espérer, qui croit que moi j'ai un accès spécial à Dieu. C'est pas biblique cette affaire-là. C'est pas vrai. Il y a des gens beaucoup plus saints que moi dans la salle ici, de par leur vie. Ils sont des modèles pour moi, une inspiration pour moi. La simple raison pour laquelle je suis en avant, c'est que Dieu m'a appelé à exposer la parole, mais on ouvre la Bible chaque semaine afin que chacun ait puisé lui-même dans les Écritures. L'Évangile pour en finir avec les charlatans, parce que l'Évangile est tout le contraire de toutes ces pratiques-là obscures, où on cherche à manipuler les gens, puis on est dépositaire d'une vérité, d'un secret. Mais l'Évangile s'offre, et lorsque la personne connaît l'Évangile, est entièrement libre de cheminer elle-même avec l'Évangile. Deuxièmement, l'Évangile, une sagesse pleine de bon sens. Je crois qu'une autre des choses que Luc veut illustrer ici, c'est aussi, ça va aussi à l'opposé de la pensée populaire. On, On a tendance à croire que le christianisme puis l'évangile est quelque chose qui rejoint habituellement, généralement, les petites gens. Et si vous n'êtes pas chrétien, c'est très, très probable que vous ayez cette vision-là. Vous vous dites, les gens qui sont ici, il n'y en a pas beaucoup qui sont instruits. Il n'y a pas beaucoup de professionnels ici. Ces gens-là ne lisent pas beaucoup. Ce sont de petites gens, parce qu'il faut faire partie de ces groupes-là de la société pour adhérer à cette foi. Or, Luc veut démontrer très tôt ici dans le livre des Actes que l'Évangile a toujours atteint des gens de tous les milieux. A toujours été reçu par des gens de tous les milieux, de tous les niveaux d'éducation. Et donc, Luc prend le temps de nous dire, voici cet homme était un homme intelligent. Et au contraire, lorsqu'il a entendu l'Évangile par opposition à toutes ces pratiques magiques, il a dit, voici quelque chose qui fait du sens. Et vous savez, l'histoire de l'Église rend des milliers de témoignages à l'égard de ce que je viens juste de dire. Et encore aujourd'hui, des gens très érudits, des scientifiques croient dans la foi chrétienne, croient en Jésus-Christ et ont l'humilité de dire, c'est vrai, je sais, je peux pas te montrer Dieu ni dans un télescope, ni dans un microscope. Et pourtant, il me semble qu'il laisse des traces de son œuvre, de ses interventions partout dans la création. Et là, on engage des discussions, on va parler de ton système de foi à toi, on va parler du mien maintenant. Mais voyez-vous, à travers tous les âges, des gens de tous les milieux de la société se sont ouverts à l'Évangile, des gens très sages et intelligents qui sont capables de reconnaître et de dire, c'est vrai que c'est un système de foi, c'est vrai que c'est une croyance, c'est vrai que je peux pas tout te prouver. Maintenant, si on parlait de ta vie et de la mienne maintenant, si on marchait quelques années ensemble, et si on discutait ensemble de cette expérience bien réelle que l'Évangile apporte dans ma vie, est-ce que tu ne serais pas intéressé par ça? Et c'est ça que je vois aussi dans le passage ici, c'est que Luc veut nous démontrer que l'Évangile est une foi, est une croyance qui est pleine de bon sens. Voyez-vous, dans le passage, Luc prend le temps de nous dire au verset 7 que ce proconsul Sergius Paulus était un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta d'entendre la parole de Dieu. Ce sont des enseignements qu'il va écouter, ce sont des informations dans un livre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, que Sergius Paulus va pouvoir étudier, qu'il va pouvoir examiner, qu'il va pouvoir objectiver dans sa démarche personnelle. Et à la toute fin de ce passage, au verset 12, voici ce qui nous est dit. « Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Luc nous dit ici, c'est définitivement vrai que cette intervention surnaturelle de Dieu par laquelle Dieu juge ce magicien contribue à la foi de Sergius Paulus. Il a vraiment été frappé par ce qu'il vient de voir. Et pourtant, ce qu'il retient le plus, ce qui l'a frappé, c'est la doctrine du Seigneur, c'est l'enseignement du Seigneur. Combien de fois, comme chrétien, on a partagé notre foi avec des gens, plusieurs d'entre vous, vous en avez fait l'expérience, on a partagé notre foi avec des personnes. Vous savez, lorsque il n'y a pas d'animosité, on est en train de jaser, tout ça, puis on partage notre foi. Puis la personne, à la fin de la conversation, vous dit quelque chose du genre, « J'aimerais vraiment ça croire ce que tu crois. » C'est plein de bon sens, ton affaire, puis j'ai pas cette foi-là, mais je trouve ça intéressant, ce que tu crois. Voyez-vous, l'Évangile est une sagesse de Dieu. Et si l'Évangile nous vient vraiment de Dieu, c'est vraiment une sagesse de Dieu, excusez-moi l'anglicisme, là, mais ça fait beaucoup de sens, it makes sense. Et lorsqu'on annonce l'Évangile aux gens et qu'on a le temps d'avoir une discussion posée, que les gens comprennent cette idée que comment est-ce qu'on va résoudre ce mal qu'il y a en nous, cette propension, cette disposition à la mesquinerie, à la méchanceté, à l'égoïsme qui est en nous et qui affecte tous les rapports humains, toute l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'on va résoudre cette affaire-là? Comment un Dieu, si ce Dieu-là existe, un Dieu saint et juste, peut nous accueillir dans sa présence, juste en effaçant toutes les horreurs? Bien non, il y a ce concept, cette idée que Dieu voulait pardonner. Et que ce pardon-là s'offre gratuitement mais qu'il a été acquis à un fort prix. Le sacrifice de ce Dieu lui-même qui s'est incarné, afin que justice soit rendue. Et que lorsque Dieu se tourne vers un meurtrier, vers un adultère, vers un menteur, vers un fourbe et qu'il lui dit, « Je t'accueille dans ma présence, je te pardonne, je te l'offre gratuitement. » En même temps, sa justice soit rencontrée parce que ça s'est fait à la croix. Quelqu'un a pris le prix de cette faute, de cette offense envers Dieu. Quand Sergius Paulus, qui cherchait, qui était un homme brillant, cultivé, qui lisait, qui était ouvert, a eu l'opportunité de comparer l'Évangile qu'on lui exprimait, qu'on lui expliquait, avec tout ce qu'il avait rencontré jusqu'à ce moment-là, a été frappé par cet enseignement. Puis il a dit, un Dieu comme ça, je veux y croire. Un Dieu qui a fait cela pour moi, je veux adhérer à cela. L'Évangile est une sagesse de Dieu qui fait beaucoup de sens. Et on l'expose librement, on le donne, sans craindre premièrement les préjugés que les gens vont avoir en mettant tout dans le même bateau, puis en disant, ben oui, t'es croyant, donc ça veut dire que t'es quelqu'un de pas trop brillant. Laisse-moi te partager l'Évangile. Tu me diras après si je suis quelqu'un de si simple que ça. Laisse-moi te partager l'objet de ma foi. Est-ce que je comprends de Dieu, de l'univers, du sens de la vie? Tu me diras après si je suis aussi niais que tu le penses. Simplement parce que j'affiche ouvertement ma foi. Parce que je déclare, moi, que je crois certaines choses. L'Évangile va toujours être une sagesse pour certaines personnes, folie pour d'autres. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 1, les versets 17 et suivants. Il nous dit, c'est une sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes, c'est une puissance de Dieu, c'est une faiblesse pour les hommes. Parce que cette espèce d'idée folle au cœur de l'Évangile où Dieu aurait tant aimé les hommes qu'il serait mort pour nous, et qu'il y aurait un être tellement saint qu'il doit nous pardonner avant de nous accueillir dans sa présence. Et que toute cette humanité qui rejette Dieu va vraiment avoir à se présenter devant Dieu un jour et rendre des comptes pour cela. Alors l'Évangile sera toujours perçu et vu par certains comme de la folie. Mais par d'autres, il sera reçu comme une sagesse. Et dans ce passage, bien que nous voyons un miracle, une intervention divine, et la tentation est là pour nous chrétiens de dire, Seigneur, j'aimerais tellement ça que quand j'annonce l'Évangile, c'est bam! Il y a un éclair, il y a quelque chose qui se passe là. Ça les aiderait à croire. C'est vrai, puis ça m'arrive des fois lorsque j'annonce l'Évangile de dire, Seigneur, manifeste-toi dans son cœur, fais un miracle, je veux qu'elle te voie. Je dois jamais oublier, et tout le livre des Actes s'applique à nous le démontrer, que ce qui sauve, c'est l'Évangile. C'est le message de l'Évangile qu'on apporte, cet enseignement de la parole de Dieu où on expose le salut en Jésus-Christ. Et on n'a pas à être gêné de cela. On n'a pas à accepter la comparaison avec toutes sortes de systèmes de croyances obscurs. L'Évangile n'a rien à voir avec cela. L'Évangile s'offre librement, gratuitement, s'expose et les gens décideront s'ils veulent croire à ça. Alors, si tu as connu Jésus-Christ, et si tu as connu que l'Évangile est une sagesse de Dieu, vas-y avec hardiesse, avec courage. Comme Paul, rempli de l'Esprit, annonce l'Évangile sans aucune gêne. Bien sûr, les gens vont vouloir faire des comparaisons simplistes. Proclame l'Évangile, expose l'Évangile, annonce l'Évangile. Pour bien des gens, croyants ou non, ils vont trouver que cette foi-là fait énormément de sens. Et certains d'entre eux, parce que l'Évangile est aussi une puissance de Dieu, vont en venir à plier le genou devant Dieu et à dire, Seigneur, j'ai besoin de ce salut que tu m'offres en Jésus-Christ. Ils vont croire. Alors ouvrez la bouche, annoncez-le. L'Évangile est merveilleux. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux dire avec l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Seigneur, j'ai connu personnellement que cette histoire est merveilleuse et fantastique et est réel dans mon expérience, Seigneur. Parce que j'ai connu ton amour et ta grâce. J'ai connu ta personne à travers l'Évangile. J'ai connu que tu m'as aimé et j'ai connu la liberté, Seigneur. Accorde à ton Église le courage. Accorde à ton Église d'aller remplie du Saint-Esprit avec courage, avec force, avec hardiesse pour annoncer librement ce message à tout homme, toute femme qui cherche et qui veut l'entendre. Sans craindre les comparaisons, sans craindre les gens qui vont vouloir retenir, qui vont vouloir empêcher de croire comme cette élimasse qui s'est opposée. Mais avec cette ferme conviction, Seigneur, que tu vas sauver qui tu dois sauver. Que tu vas conduire à la connaissance de Christ, celui que tu dois conduire là, Seigneur. Et que nous ayons, Père, le pied léger comme Paul et Barnabas, qui rapidement reprennent la route et continuent à annoncer, Seigneur. Que les oppositions et les opportunités ne soient pas des freins pour nous. Mais Seigneur, que nous allions de jour en ouvrant la bouche et en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que je te prie, Père. Amen.